Merci et tout de suite, on déhausse les raquettes.
1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Bonsoir, Wendell Pierce.
Bonsoir, Daniel Soutif.
Ce soir, il nous entraîne sur les chemins de l'art émancipateur et reconstructeur.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Edith.
La culture sert à tout, même à revenir d'entre les morts. La Nouvelle-Orléans est une contrée maudite et hantée, cernée par les eaux boueuses du bayou et dont les cimetières débordent littéralement depuis des siècles, au gré des crimes comme ceux des époux LaLaurie, des épidémies, des incendies et des ouragans. Aussi, les vivants ont-ils dû ruser pour que les morts ne reviennent pas les tourmenter à chaque crue du Mississippi ou du lac Pontchartrain, en trouant par exemple les cercueils, ou alors en les lestant avec du plomb. Mais malgré leurs efforts, ou peut-être en raison de cet inquiétant biotope, c'est à la Nouvelle-Orléans qu'a élu domicile l'un des morts-vivants les plus célèbres, le vampire Lestat, héros ambigu de l'œuvre d'Anne Rice, mondialement connue pour son entretien avec un vampire, adapté au cinéma avec Tom Cruise dans le rôle de l'insolent Lestat. Et voilà qu'il revient, 11 années après la publication de ses dernières aventures, sous la plume d'Anne Rice et de son fils Christopher, secondé par un énigmatique Beckett, lui aussi natif de la Nouvelle-Orléans, pour guider ce que Rice appelle les enfants de la nuit. Preuve que même le déluge ne saurait étancher la soif de sang, et donc de vie, de la Nouvelle-Orléans.
Tu es un vampire. Tu n'as jamais su ce qu'était la vie, jusqu'à ce qu'elle s'échappe en un flot rouge d'entre tes lèvres. Je n'ai plus la force d'affronter cette horreur.
C'est vous qui avez fait de nous ce que nous sommes!
Dieu frappe à l'aveuglette. Nous ferons comme lui.
Tu meurs content! Tu me condamnes à l'enfer!
Trêve de confiserie, Prince Lestat, 11e tome des Chroniques des Vampires d'Anne Rice, vient de paraître chez Michel Lafon. Et le feu est aussi dans le bayou avec Wendell Pierce et Daniel Soutif.
Mathilde Serrel, Martin Kenéen, Ping-pong.
She used to run around with every man in town. Spent all my money trying to play a high-class game. Shame, what a pity, oh, I cry. Same old story, little same old lie.
Ouverture en fanfare avec le Dirty Dozen Brass Band. Nous sommes à la Nouvelle-Orléans et ce titre « It's all over now », c'est le souffle d'une ville. Et ces musiciens qui tentent de se reconstruire après l'ouragan Katrina en 2005, c'est la bande-son et l'histoire de la série « Trémé » créée par David Simon où Wendell Pierce, vous incarnez un tromboniste jazz que vous êtes aussi dans la vie. Ce brass band des rues de la Nouvelle-Orléans qui résiste, c'est aussi la bande-son en quelque sorte de votre biographie. Le vent dans les roseaux vient d'être traduit aux éditions du Sous-Sol, sous-titré « L'histoire d'un ouragan, d'une pièce de Beckett et d'une ville que rien ne pouvait briser ». Vous y écrivez que s'il existe une ville aux États-Unis où l'art, la culture et la résistance citoyenne s'entremêlent plus intimement qu'à la Nouvelle-Orléans, vous n'y êtes encore jamais allé et pourtant, vous avez beaucoup voyagé. Alors comment elle se fait, cette résistance par la culture et pour la culture, notamment à Pontchartrain Park, le quartier qui vous a fait Wendell Pierce?
Well, first of all, thank you for having
D'abord, me. D'abord, merci de m'avoir invité.
But it goes so far back beyond just Pontchartrain Park.
Ça remonte vraiment bien avant Pontchartrain Park, là où j'ai grandi. En ce qui concerne la musique, le jazz lui-même, c'est quelque chose qui est né parmi les Africains-Américains, les esclaves, qui commentaient et qui discutaient et qui parlaient de leur oppresseur. Ce rythme combiné avec les trompettes qui venaient d'Europe, Et la liberté, ils ont trouvé une liberté dans leur créativité. Avant de trouver leur vraie liberté physique, ils ont créé donc le jazz. C'est ce mélange-là qui est vraiment une esthétique américaine de liberté d'individu dans la forme, avec là où les deux musiques peuvent coexister ensemble pour la liberté de l'individu, tout en gardant un rythme, une fonction et un ordre à l'intérieur de la chanson. Et donc, la création littérale de cette forme d'art à Congo Square, dans le New Orleans, c'est vraiment l'essence de la résistance et de la révolution exprimée par la culture. Ça a été le commencement d'une façon de vivre, d'une culture à New Orleans Square, là où notre art a toujours été concret. Pas seulement décoratif, pas seulement du spectacle, c'était quelque chose qui parlait à la résistance. Et donc, quand on reparle de Jim Crow, quand on parle de la ségrégation, il y avait des clubs sociaux. Donc, on comprend toujours, bien sûr, le côté de plaisir. Les mouchoirs, les parapluies, les ombrelles, les jeux. Mais c'est aussi un endroit où on pouvait trouver des aides pour l'hospitalisation. Et parmi les pauvres noirs américains qui étaient oppressés par la ségrégation, on pouvait dire, Mathilde, si ton père est malade, on va s'occuper de toi. Si ta mère est morte, on lui organisera une des funérailles belles avec ce concert. C'était vraiment quelque chose, un droit physique, civique, vraiment. Et ça a continué, tout ça, jusqu'à ma génération, jusqu'à la génération de mes parents, qui n'avaient pas accès à la propriété, par exemple. Après la Deuxième Guerre mondiale, mon père est venu du Pacifique. Il n'avait pas de famille dans le coin. Et à Pontchartrain Park, c'était vraiment un endroit où il y avait donc des parcs où on pouvait aller quand on était noir, sauf pour un jour dans la semaine. C'était le seul jour où on pouvait aller se balader. Le mouvement de droit civique, alors, a permis aux Noirs d'avoir accès à ces parcs. Et c'est ça la naissance de Pontchartrain Park. Avant ça, il y avait un golf, il y avait plein de parcs, etc. Et c'était un endroit où tous les Afro-Américains pouvaient accéder à la propriété d'un lieu, d'une maison. C'est donc un lieu de résistance, de révolution. Et ça fait partie de la Nouvelle-Orléans depuis le début. Et de la naissance même du jazz.
Wendell Pierce, la chance qu'on a d'être avec vous ce soir, c'est qu'on vous a invité avec Daniel Soutif, qui est le commissaire de l'exposition The Color Line, qui est actuellement au Quai Branly à Paris, et qui donne à voir, et qui surtout, qui contribue à donner un nom à tous les grands artistes africains, américains, depuis la ségrégation, depuis la fin, depuis l'abolition de l'esclavage en 1865, jusqu'à nos jours. Bien sûr, dans votre histoire, et on le lit dans Le Vent dans les Roseaux, il y a ces personnages essentiels que sont vos parents, votre père et votre mère. Mais est-ce que vous pourriez nous donner le nom et nous parler de quelques-uns de ces grands artistes et pourquoi pas de ces artistes de jazz qui ont incarné pour vous ce pouvoir politique, ce pouvoir transformateur et insurrectionnel du jazz? Parce que non seulement vous êtes cet acteur connu et vous êtes vous-même un de ces personnages aujourd'hui avec le personnage d'Antoine Baptiste dans la série Trémy, mais vous êtes aussi un animateur radio sur le réseau national américain d'émissions de jazz au Lincoln Center, où notamment un tromboniste, J.J. Johnson, vient d'entrer dans le Hall of Fame. Parlez-nous de ces figures, de ces artistes qui, pour vous, ont incarné ce pouvoir libérateur de l'art.
Le premier dont je pense, c'est celui qui a transformé la musique en tant que compositeur, en tant qu'individu, improvisateur de jazz. Il a eu un impact pour des gens qui n'avaient jamais vu de génie noir de peau. Il a eu un impact politique. Et dans notre Cour suprême, qui prenait toutes les décisions pour mettre fin à la ségrégation, ils ont discuté de ses écrits. il n'avait jamais vu un noir qui avait atteint un tel génie. Et il avait vu Louis Armstrong qui jouait. Louis Armstrong est donc, pour moi, celui qui a transformé les idées d'égalité. Et en grandissant, en vieillissant, ça a permis de faire changer les décisions de la Cour suprême vers la fin de la ségrégation. C'est donc le génie d'Armstrong. Il a changé pas seulement la musique. Il y a aussi Sidney Bechet, qui est d'ailleurs à séjourné à Paris. Son arrogance, sa droiture, c'était quelqu'un qui, à Pigalle, pouvait prendre un pistolet et courir après quelqu'un qui lui devait de l'argent. Ce genre d'attitude-là, cette droiture face à l'oppression qui existait dans la musique. Et c'était quelque chose qui vraiment n'était pas très approuvé à l'époque, à la Nouvelle-Orléans. On parlait des négros ignorants. Et il a fallu plusieurs générations par la suite pour que la musique arrive à définir l'esthétique américaine de la rébellion, de la liberté et de l'individu. Ça vous montre l'impact et le changement de la façon dont on a perçu le monde. Et ça a montré au monde comment les Américains, ce que c'est que l'esthétique américaine, que ce que c'est que la liberté à l'intérieur de la forme, à l'intérieur d'un certain ordre.
Avec un grand métissage, c'est vrai, à la Nouvelle-Orléans qui peut être un point de rencontre entre les Caraïbes, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord. Il y a tout ce métissage dans la musique de la Nouvelle-Orléans. Il faut rappeler que Louis Armstrong et Sidney Bechet, ils ont dû émigrer la Nouvelle-Orléans. Donc c'est une scène qui a dû se construire, créer son propre mode de diffusion. Et ce qu'on découvre avec la série Trémé de David Simon, c'est aussi comment Alain Toussaint, professeur Langraire, ces gens-là vont essayer de continuer cette tradition émancipatrice de la musique à la Nouvelle-Orléans. Et justement, là, vous êtes acteur, tromboniste dans la série Trémé, mais dans la vraie vie, dans cette Nouvelle-Orléans, vous aussi, vous avez participé, Wendell Pierce, à sa reconstruction post-Katrina. Et là, pas en tant que musicien de jazz, en tant que citoyen. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette reconstruction-là?
J'ai eu une révélation après Katrina. Je me rendais compte que j'avais une culture qu'il fallait continuer et qui concernait d'autres villes américaines aussi, mais qu'il fallait absolument passer, qu'il fallait absolument transmettre. Il y avait un petit quelque chose à transmettre pour construire quelque chose de plus grand. Il fallait prendre un petit peu d'huile, un petit peu de graines, un petit peu de fleurs. Et puis notre cuisine, comme le gumbo, et qui est connue dans le monde entier. Et tout ça montre comment nous vivons notre créativité. Ce n'est pas quelque chose qui est accidentel. Ma famille, ce qu'elle m'a transmis, elle a survécu à l'esclavagisme. Mais j'ai eu aussi la révélation à propos du pouvoir de l'art. L'art, c'est un lien que nous avons tous entre nous. Ça montre notre humanité que nous partageons. Et plus vous êtes particulier, plus vous êtes singulier, plus votre histoire est universelle. Parce que un homme comme Beckett qui écrit en attendant Godot, pendant l'occupation ici à Paris, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça nous parle. Au 21e siècle, en Nouvelle-Orléans, ça nous parle. Parce que ça parle d'isolation, ça parle surtout de solitude, de vide. Et la leçon à en tirer, en fin de compte, c'est qu'aujourd'hui et maintenant, tout les hommes, toute l'humanité, c'est nous. Et nous devons faire quelque chose. Dire ces mots-là quand j'ai joué cette pièce là-bas, à la Nouvelle-Orléans, c'est le moment le plus cathartique que j'ai jamais vécu. Parce que tous les gens qui avaient là-bas, en Nouvelle-Orléans, ont compris ce que Beckett disait. Et ça nous a mis en lien avec lui, les générations précédentes. Et ça faisait un lien avec les générations même qui suivent, parce que c'est un classique. Et ce qui fait que c'est un classique, c'est que c'est une humanité authentique qui s'y exprime. Aussi différents les gens décrits sont-ils? Il y a quelque chose d'authentiquement humain chez eux qui nous lie. Et quand j'ai joué cette pièce à la Nouvelle-Orléans, c'était quelque chose que l'on faisait après, bien sûr, la catastrophe de Katrina. Et bien sûr, il en parle aussi dans la pièce. Ça a complètement déclenché quelque chose en moi. Je me suis rendu compte qu'en tant qu'artiste, je pouvais faire plus et je pouvais faire mieux. Ça a illuminé le pouvoir que je pouvais avoir. Et c'était quelque chose qui m'a transformé. Et il était certain pour moi alors que je pouvais faire plus. Et j'ai commencé à reconstruire Pontchartrain Park à partir de là. C'était un endroit qui était très important au moment de la ségrégation, un endroit qui était interdit aux Noirs. Et c'est quelque chose qui m'a transmis une grande responsabilité. Et j'ai eu envie de ramener ça, de revenir à ça. Voilà ce que j'hérite de cet art. Et ça m'a propulsé, ça m'a donné envie d'agir.
Daniel Soutif, on l'entend, Wendell Pierce qui se dit fils de la Nouvelle-Orléans dans le récit de son histoire, qui aujourd'hui est un de ceux qui réinvente, qui invente la Nouvelle-Orléans du futur et qui, voilà, en tant qu'entrepreneur et non seulement comme acteur de la fameuse série Trémie, j'aimerais que vous nous disiez un mot de la place de la Nouvelle-Orléans dans votre exposition The Color Line, parce que il est évidemment au cœur de cette exposition Harlem, qui est à la fois l'épicentre de la renaissance artistique, mais aussi des luttes, des émeutes qu'il y a eu sur tout le territoire américain, mais en particulier à Harlem, et la Nouvelle-Orléans. Est-ce qu'on la voit apparaître dans The Color Line au Quai Branly en ce moment?
Pour être honnête, pas vraiment, parce que, comme vous savez, l'exposition a été concentrée sur les arts visuels, sur les arts plastiques, et du coup, les centres qui ont été véritablement extrêmement actifs sur ce terrain-là, hein, ça a été bien sûr New York, la période de la Harlem Renaissance, par exemple, ça a été aussi Chicago, ça a été quelquefois la côte ouest. À vrai dire, il y a un tableau qui vient de la Nouvelle-Orléans dans l'exposition, qui est un tableau de Lois Mailou Jones, mais il est à la Nouvelle-Orléans dans une galerie qu'il possède, pas parce qu'il a été produit là. C'est un tableau qui est assez tragique d'ailleurs, puisqu'il représente un homme, un vieil homme qui va être lynché. C'est un tableau très célèbre, mais comme ça, à première vue, c'est la première connexion que je vois avec la Nouvelle-Orléans. Si j'y réfléchis un peu plus, il y a autre chose qui a à voir directement avec la Nouvelle-Orléans. C'est un épisode historique que Wendell se rappelle probablement très bien. C'est au moment où la ségrégation dans les écoles existait encore. Il y a une petite fille à la Nouvelle-Orléans qui s'appelait Brix, je crois, Bunny Brix, ou je crois que c'était ça son nom, elle était une militante très jeune, elle devait avoir 8, 9 ans, 10 ans, et elle a été à l'école non ségrégée, à la grande fureur de tous les ségrégationnistes. Et du coup, il fallait, pour qu'elle soit accompagnée à l'école, il fallait qu'elle soit accompagnée par des marshals. Et donc, ça a été un moment symbolique très fort. Et il existe un artiste qui n'est pas un artiste noir, qui est Norman Rockwell. Et Norman Rockwell a représenté dans un tableau assez célèbre la petite fille de 8 ans, de 10 ans, accompagnée à l'école par les deux grands marshals blancs, etc. Ce tableau, aujourd'hui, je précise, il n'est plus à la Nouvelle-Orléans. Il a d'ailleurs probablement jamais été. Il est à la Maison Blanche. Et si vous allez vous promener sur Internet, vous allez voir Barack Obama avec la petite fille devenue grande. Je pense qu'elle doit avoir à peu près le même âge que Wendell. Peut-être ils se connaissent même. Et ils sont tous les deux à la Maison Blanche en train de regarder le tableau.
Wendell Pierce.
Yes, he makes a really good point.
Vous dites quelque chose de très important. Et le lien important qui existe, c'est le suivant. C'est que cette école était dans... Elle était dans le Lower Ninth Point, dans ce quartier où c'était très difficile pour les Noirs de continuer à vivre. Et c'est là où bien des gens ont perdu la vie pendant Katrina. Et dans cette communauté, les gens allaient dans la base navale à côté et on leur refusait accès par les gardes navals avec les pistolets pointés sur eux. Et au moment de plus grands besoins, ils ne pouvaient pas entrer sur la base. Vous voyez que une génération après, il y a encore des attitudes raciales qui s'expriment. Et voilà l'importance de l'art. Cet incident a été montré dans un film qui s'appelle Troubled Waters, un documentaire qui a été tourné par un mari et son femme qui ont filmé alors que vraiment ils étaient dans l'ouragan. Et donc je connais le tableau dont vous parliez, et ça vous montre à quel point les artistes ont su résister et à montrer la laideur de notre intolérance et de cette génération qui, plus tard, doit être vigilante à propos de ces combats contre l'intolérance.
Justement, Wendell Pierce, à un moment dans votre livre, à propos de cette génération, vous avez un mot sur la génération Moïse. Alors pour vous, ce sont les libérateurs donc qui ont conduit les Africains-Américains à travers le désert de la ségrégation après l'abolition de l'esclavage. Et ils vous transmettent la responsabilité qui vous incombe à vous, la génération Josué, de mener votre peuple jusqu'à la terre promise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment voilà, vous en êtes venu à cette analogie et comment vous en êtes venu à cette responsabilité ?
When I became aware of
quand j'ai pris conscience
what my parents' generation had
de ce que la génération de mes parents avait accompli pour nous. Mon père avait battu pendant la deuxième, s'était combattu pendant la deuxième guerre mondiale. Il n'avait même pas l'autorisation d'entrer dans le quartier français.
There was a very famous
il y avait
un activiste,
Epi Turo, qui était très célèbre, un militant, qui combattait l'idée que les parcs ne puissent être ouverts qu'un seul jour pour les nègres. Et c'est ensemble qu'ils ont tout fait pour que Pontchartrain Park soit ouvert. Quand vous imaginez tout ce que les gens ont risqué, tous les gens qui ont perdu leur vie, on ne peut pas ne pas prendre cette responsabilité. Et donc, à ces années merveilleuses de leur vie, ça aurait été un blasphème pour moi de permettre à ce quartier de se perdre, de ne pas revenir. Et donc, j'ai pris cette action, c'est ce que j'ai fait avec, en attendant Godot, pour ma génération. J'ai voulu que cela revienne et qu'on se retrouve ensemble et qu'on fasse quelque chose. Et en fait, ça a été inspiré par Barack Obama, qui a cité ce que vous disiez, la génération et de Moïse et de Joshua. Il l'a cité dans un de ses discours.
Oh, fuck. Motherfucker.
Le mot en F, le F-word, comme on dit aux États-Unis, dans une scène d'anthologie de la série The Wire, c'est l'épisode 4 de la saison 1 pour les amateurs. Vous êtes l'un des personnages principaux, vous êtes l'officier de police Bank avec votre collègue McNulty sur une scène de crime. Et voilà, pendant de longues minutes, il y a ce plan séquence dans l'appartement où vous cherchez des traces du crime et le seul mot qui vous vient aux lèvres, c'est donc le mot fuck. Cette transgression est d'importance pour une série télévisée américaine, mais quand on parle de transgression et de la culture africaine-américaine, il y a un autre mot tabou, c'est le N-word, le mot en N, qui est le mot negro ou nigger, un mot qui a pu être utilisé par les pionniers, comme le philosophe Alan Locke, comme bien sûr Du Bois, et puis il a été subverti, ce mot en N, par les rappeurs en particulier ces dernières années. Mais pour vous, Wendell Pierce, qui avait choisi de prendre la plume pour écrire votre histoire, Le vent dans les roseaux, comment on peut dire l'être africain-américain? Comment on peut dire cette couleur noire? Et peut-être, est-ce qu'il y a des auteurs, des écrivains qui, pour vous, ont su la sublimer?
C'est une très bonne question. L'évolution et le sens de ce mot et de son usage est quelque chose avec lequel vraiment je me bats encore. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir avec légèreté. C'est vraiment ça le point cardinal auquel je reviens tout le temps. Je crois complètement que tous les artistes ont le droit d'utiliser les mots qu'ils souhaitent dans leur tentative d'exprimer. Mais ça ne devrait pas être arbitraire, le mot, l'usage de ce mot. On voit August Wilson, dont je pense est un auteur dramatique, un des plus grands en Amérique. Il démontre vraiment l'ambiguïté d'un mot comme « nègre ». On peut le voir comme un terme affectueux et dans la même pièce, la leçon de piano, je crois. C'est un terme de violence crue. Il y a une phrase dans la leçon de piano où il dit de son amour pour un oncle, tu sais, un nègre, et puis tu sais, je vais t'en donner un, tiens, un melon. Et l'oncle décrit comment son père a été vendu sur la place des esclaves comme un nègre. Et ça m'importe parce que ça m'est arrivé. Mon arrière-grand-père a été vendu en tant que nègre. Alors quand j'entends ce mot, voilà ce que j'en pense. J'ai envie de demander à ces jeunes artistes qui utilisent ce mot-là, ils l'utilisent de façon un peu cavalière. N'oubliez pas de la violence et de la dureté qu'implique ce mot. J'ai en fait joué la leçon de piano à Broadway. Et cette pièce était inspiré par un des peintres qui est d'ailleurs dans l'exposition dont on parle ici.
The Color Line.
Et donc la leçon de piano est inspirée d'un tableau qui s'appelle Lesson for Sister Lou. August Wilson a vu ce tableau et il a écrit sa pièce d'après ce tableau de Romare Bearden, qui est d'ailleurs dans l'exposition. Ça vous montre comment le mouvement de l'art noir, black, s'influence l'un dans l'autre.
Vous nous le donneriez à voir, Daniel Soutif?
Si vous voulez, il y a deux tableaux très importants de Romare Bearden dans The Color Line, et ces deux tableaux ont à voir avec les questions que soulève Wendell. Le premier tableau, c'est un tableau très important. Quoi, le premier, pas dans l'ordre chronologique, le premier qu'on rencontre dans l'exposition, c'est un tableau qui s'appelle The Block. Et c'est un tableau qui représente un quartier de Harlem, un bloc de Harlem. C'est un collage, une peinture, c'est un mélange de médias qui fait vivre la vie des gens dans cette espèce de pâté de maison pauvre. C'est une œuvre vraiment éblouissante. On y voit par une fenêtre qui est collée sur la surface une femme. Ailleurs, c'est un gosse. Un autre endroit, c'est une ampoule électrique. C'est une œuvre tout à fait remarquable. L'autre tableau, c'est une œuvre un peu plus ancienne de Romare Bearden. Je ne sais plus son titre exact, mais c'est quelque chose comme Le rôle des Noirs dans la construction des États-Unis. C'est une œuvre qui est plus traditionnelle dans le sens que ce n'est pas un collage. C'est une œuvre faite exclusivement de peinture, post-cubiste, disons. Et elle montre une grande scène de construction. Et elle fait apparaître que les Noirs ont joué un rôle très important dans la construction des États-Unis.
1, 2, 3. Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui, nous l'espérons, participe de façon insurrectionnelle à votre édification. À suivre, donc, plongée de l'autre côté de la Color Line, ou carrément on va déchirer la Color Line avec Daniel Soutif pour cette exposition, commissaire de cette exposition, et toujours Wendell Pierce qui fait souffler le vent dans les roseaux de la Nouvelle-Orléans.
Ping Pong. La culture sans limite.
Il était une fois une princesse qui rappait la nuit dans les bus de Londres et volait leur micro au MC dans les free parties. Une jeune fille de 16 ans qui ne connaissait pas d'autre choix que l'urgence de dire et d'écrire. 10 ans plus tard, elle a publié 3 albums, dont 2 en solo, une série de poésie, 3 pièces de théâtre et un recueil de nouvelles. Cette fille-là, c'est la bien nommée Kate Tempest. Révélée au public français au Transmusical de Rennes en 2014 sur scène, elle sait, dans les plis de ses rimes, la succession de ses images, nous slammer le monde du 21e siècle. C'est à nouveau le cas, avec encore plus d'acuité dans son 2e album de poétesse soliste, Let Them Eat Chaos, littéralement « Laissez-les manger le chaos », où elle ne se contente pas d'aligner les protest songs comme son « Europe is lost » ou les constats abyssaux comme « Ketamine for breakfast », mais construit aussi un récit fictionné et choral sur les habitants de son quartier de Londres à travers 7 personnages à 4h18 du matin exactement. Je vous propose de faire la connaissance avec Pete, le rodi alcoolique qui habite chez son père. Kate Tempest vous en fait le portrait, sans oublier de rapper contre elle-même.
Well, who's this? Staggering home, jabbering, looking like some street smart, arrogant gnome. Feet sticking to the curb like javelins thrown, gesturing wildly, having full-blown conversations with himself, saying, haven't you grown, to his face in the windows, grimacing, grappling with half a cigarette, not managing. This is Pete. Pete grew up on this street. He moved away, but he's back living at his dad's so he can save. He rigs stages at live events, but every time he gets paid, he gets wasted and wakes up with less than he made and he hates it. But that's life, right? Fast-paced, shit-faced, low maintenance. And all of his mates are kind of on the same page. It's basic wages, takes ages to get through the month, but then payday comes and his drinks all round. Outrageous behaviour. Living right now, no sense of later. Pills by the pocketful, nights last days. And look, even if he never splashed out, he still couldn't make the rent on his own place. Face it. It's 4:18. Pete's 14 doors from home and his thoughts are like a pack of starving dogs fighting over the last bone. No, 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 yeah, no, anyway, what was I saying? Fuck it, mate, hold on, I'm coming up. Wait, good night, weren't it? Must have been burnt too much on the good stuff, lucky me. I looked up, I saw my future unravel and the light's funny, innit? I love that sinking feeling any minute, but you can't win a race unless you're running in it right. Ah, you can't get a taste unless you're taking a bite. Man, I'm climbing up the walls, things are getting difficult, it's all take, 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 or start early, work late. Putting in the hours for these drugs, tokens, love's a joke when your blood's pulsing. Love is real when you start choking, I'm double dropping in the vast ocean. Stay with me, mate, blatantly the way I was made, you see? I've been getting on it since back in the day. Good place for a bad time if you ask me. Trust me, nothing gets past me. A bad place for a good time if you know what I mean. Never met no one like you, this feels like a dream. Whoops, back here again. How many times have I sworn it's the end? Whoops, I know this feeling. Shoveling the rubbish and I'm staring at the ceiling. Whoops, dancing to a shit tune. Hands in the air when it hits you. Whoops, I'm lying in my bed and my brain is eating my head. I've got these demons that I can't shake. My past is a vast place, can't get away. Life got grim back then, like it does. Do you know how it feels to lose people you love? I like talking to you like this. You wanna come back? Couple drinks, something like that. I got a grab on my nightstand. I got an 8 for Squidgy Black. I got this feeling that we're gonna be friends. I got this song, I wanna play it to you. I got this dream, I'm gonna make it happen. I got this thing, I wanna say it to you. You see, I've been writing poems, it's a thing that I do. And would you mind if I shared one with you? No, of course not, right, sorry. This time of night, I always end up spouting the same old track. It reminds me of this time I was trying to find my mind in the back of this rave. This kid was spilling blood all over the place, and I was looking out for someone to save or be saved by. And I found this paper plate, started writing. It felt fucking great. I knew then me and the pen, we were one and the same. But look, I can't take the strain of the days. I'm pretty sure I'm halfway too insane. You got such a nice face and your eyes are like rain. I'd try and kiss you if I could just remember your name.
Whoops, back here then exposed. Don't watch the state of my nose. Whoops, my jaw's gone west and I started getting pains in my chest.
That's normal.
Whoops, there goes my promise. All it took was 2 drinks till I got on it. Whoops, I swear this person isn't me. We did have fun though, didn't we? Didn't we?
Yeah.
Whoops, Kate Tempest, vous écoutez France Culture, c'est Ping Pong et c'est un extrait de son nouvel album Let Them Eat Chaos, laissez-les manger le chaos comme une bande de chiens affamés si vous avez bien compris le texte. Elle s'agit d'une incroyable personne sur scène, Kate Tempest, parce qu'elle va chanter son album les 20 titres d'un seul tenant, d'un seul trait, comme un roman chanté le 28 octobre à Paris à la Gaîté Lyrique, le 7 novembre à Lyon. Wendell Pierce Je sais que Kate Tempest dit qu'en 2016, elle peut pas ne pas parler d'immigration, de pauvreté, de désastre écologique, que l'art est là pour rassembler les gens. Vous avez un peu la même philosophie, notamment dans votre lecture de Trémé. Vous nous dites que c'est une série qui montre la culture, comment elle maintient les gens ensemble et les aide à tenir. Mais vous, Wendell Pierce, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu besoin d'écrire?
I first wanted to document.
D'abord, je voulais rendre compte de ce que nous avons fait après le désastre. Je me disais qu'un jour, un enfant me demanderait « Qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là, dans ces moments les plus sombres ?» Et je voulais avoir une réponse, et je voulais rendre compte. Je me suis rendu compte, moi, que j'avais eu une révélation, donc, et que j'avais toute une culture de résistance en moi. Une culture de révélation, et que ma famille avait cette culture, et que mon milieu avait, et que cette culture-là, c'est un art, c'est une communauté d'artistes qui, toujours, avait parlé de résistance, de résilience. Et j'ai commencé à contacter le Free Southern Theatre, qui était une compagnie qui avait beaucoup fait de choses pendant le mouvement des droits physiques. Et qui avait fait beaucoup de protestations, beaucoup de manifestations. Et qui étaient menacés de ne pas pouvoir jouer parce que le Ku Klux Klan les empêchait de jouer et les menaçait de mort si jamais ils jouaient leur spectacle. Et ça a été la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, pour rendre compte de ce qui s'était passé. Cette révélation l'a transformé en une culture.
Je voudrais ajouter une chose pour les Français, c'est que Albert Murray, qui est surtout connu à cause de plusieurs livres sur le jazz, notamment la bibliographie de Count Basie, est l'auteur d'un livre admirable qui s'appelle The Omni Americans. Et c'est un livre que j'enjoins à tout le monde de lire, parce que c'est un livre qui explique comment au fond tous les Américains, d'une manière ou d'une autre, sont culturellement plus ou moins noirs. Parce que la culture noire a pénétré dans l'esprit de chaque Américain, de quelque couleur qu'il soit.
Ping-pong. La culture sans limite.
Attica Blues, Archie Shepp 1972, un de ces disques qu'on trouve dans The Color Line, l'exposition dont vous êtes le commissaire Daniel Soutif. The Color Line, le sous-titre, c'est les artistes africains-américains et la ségrégation. C'est jusqu'au 15 janvier au musée du Quai Branly à Paris. Il y a de la musique, il y a de la littérature et il y a bien sûr des arts visuels, des arts plastiques et... précisément, et j'ai l'impression que là on rejoint la volonté très profonde de Wendell Pierce avec le vent dans les roseaux, son récit. Ce que nous dit Wendell Pierce, entre autres, quand il défend le pouvoir de l'art, il dit de l'art africain-américain, il y en a. Mais l'enjeu, c'est d'arriver à le montrer. Et vous, ce sur quoi vous insistez à travers les textes, notamment que vous donnez à découvrir, mais surtout à travers cette exposition elle-même, Daniel Soutif, c'est, pour prendre les termes de Du Bois et de Daniel Driscoll, c'est qu'il faut imposer la reconnaissance de cet art et de ces artistes au public.
Oui, c'est vrai. Aux États-Unis, les choses commencent à changer depuis quelques années, une quinzaine, vingtaine d'années. Par exemple, à Détroit, on a ouvert il y a 15 ans un département d'art africain-américain au Musée des Beaux-Arts. Mais en France, l'art visuel des artistes africains-américains est à peu près inconnu. La plupart des artistes qui sont montrés dans l'exposition, et que Wendell a l'air de connaître parfaitement, puisqu'il n'arrête pas de me demander, est-ce qu'il y a Norman Lewis, est-ce qu'il y a Romare Berden, est-ce qu'il y a Jacob Lawrence, est-ce qu'il y a Bob Thompson, tous ces artistes-là pour la communauté noire sont des noms très importants maintenant, et maintenant ils deviennent aussi des noms très importants pour tous les Américains, parce que les musées américains enfin se décident à les montrer, à les acheter. L'an dernier, on a eu deux acquisitions importantes de la National Gallery of Art et du Metropolitan, de deux tableaux de Aaron Douglas, mais ces artistes pour l'instant, ils sont encore à peu près totalement inconnus en France. Et je peux vous dire que au moment du vernissage, j'ai rencontré pas mal d'amis, directeurs de musées, conservateurs de musées, critiques d'art, et tous étaient quand même très surpris de découvrir des artistes d'une telle qualité dont ils ignoraient totalement les noms. Et donc, l'ambition de l'exposition que j'ai mise sur pied avec le Quai Branly, c'était justement de faire découvrir toute cette histoire qui a duré quand même maintenant 150 ans, puisque ça commence avec le souvenir de Edmonia Lewis, qui était une sculpteur dont l'œuvre évoquée dans l'exposition, parce qu'elle n'est pas montrée, c'était pas possible de la transporter, s'appelle Forever Free, c'est la libération des esclaves, et c'est 1867. Et on arrive à l'époque contemporaine, donc c'est quand même une longue tranche d'art.
Avec l'origine du monde.
Avec l'origine du monde de Micheline Thomas, qui est un très beau tableau. D'ailleurs, Micheline Thomas, elle fait un petit trait d'humour, parce que son tableau, elle ne l'appelle pas l'origine du monde, elle l'appelle l'origine de l'univers. Ce qui veut dire que le monde est englobé dans l'univers en question.
Et donc, et le modèle de Courbet,
voilà, c'est le tableau de Courbet. On peut, pour Micheline Thomas, c'est pas mal, puisqu'on peut aller au musée d'Orsay voir le tableau de Courbet après avoir vu celui de Micheline Thomas, ou le contraire. Mais j'espère que cette exposition, elle va déclencher quelque chose, à part le plaisir qu'on peut prendre à la voir déjà. J'espère qu'elle va faire que les autres musées, les grands musées en France, à Paris, en Europe, vont se décider à faire des expositions monographiques consacrées à tous ces artistes. Aux États-Unis, c'est déjà commencé, parce que, par exemple, actuellement, si vous allez à New York, vous allez au Metropolitan, vous avez une exposition de Kerry James Marshall, qui est un de ces grands artistes de Chicago, qu'on n'a encore jamais vu ici. C'est la première fois, je crois, qu'il y a un tableau de Kerry James Marshall à Paris. Il y a une exposition qui a tourné en Europe il y a 2-3 ans, mais elle n'est pas venue à Paris. Et donc, j'espère vraiment que ça n'est qu'un début. Et comme disait la formule autrefois, d'autres continueront le combat.
Ce n'est qu'un début, continuons le combat. On était dans une manif avec Daniel Soutif. Wendell Pierce voulait réagir.
Je pense que c'est
très important de montrer cet art moderne et de montrer que les organisateurs puissent ouvrir et commencer à découvrir ce monde et que le public français puisse découvrir des gens qui, comme vous le disiez, ne savaient même pas que ça existait. Et parce que pour moi, ce sont des liens, des choses que je connais vraiment par cœur. Marion Douglas, Romare Beard, Bob Thompson, Elizabeth Catlett, ce sont des artistes dont nous parlions tous les deux avec Daniel. Et the color line, de pouvoir, c'est vraiment comprendre une chose importante qui appartient vraiment à l'art. Moi, je suis au courant de ça par Golden, qui est un ami et qui c'est lui qui m'a ouvert les yeux à des artistes que je ne connaissais pas et qui m'ont donné courage pour comprendre que je ne venais pas de rien et que je venais d'une suite. Et je venais de toute une tradition. Et je pense qu'il y a toute une nouvelle, comme Basquiat, une nouvelle génération d'artistes, Darryl Walker, qui travaille aujourd'hui, tous ces artistes que les Français vont découvrir. Et en découvrant ce mouvement d'artistes noirs.
Juste pour repréciser les choses, la color line dont on parle depuis le début, parce qu'il faut quand même le dire pour les auditeurs, c'est post-1865 qui va publier une tribune en disant voilà, il y a une persistance même à la fin de l'esclavage de la ségrégation. Il y a une ligne noire. Ça va être repris ensuite par Du Bois en 1903. C'est ça le titre de votre exposition. On peut le rappeler aussi, Daniel Soutif, vous avez décidé de mettre le drapeau africain-américain aussi de David Ammons en évidence. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur ces deux termes, finalement, si la Color Line et Afrique-Américain que vous avez choisi de saisir et qui ne sont pas évidents pour les Français.
D'accord. Color Line, en effet, c'est une expression qui apparaît à la fin du 19e siècle. Elle est imprimée pour la première fois comme titre d'un article de Frédéric Douglas en 1880, reprise, comme vous avez dit, par Webb Du Bois. C'est une métaphore, c'est la ligne de la couleur qui sépare les populations noires d'un côté, blanches de l'autre. Dans l'exposition, il y a un tableau de Horace Pippin qui s'appelle Mr. Préjudice, et c'est juste après la Deuxième Guerre. Il y a un grand V et il y a un personnage qui plante un clou, qui coupe le V en deux. À gauche, les noirs, à droite, les blancs. C'est ça, la color line. Mais en même temps, comme l'expression est américaine, pour les Français, elle peut avoir une ambiguïté. On peut croire aussi qu'il s'agit d'une histoire de couleur, autrement dit d'une histoire de peinture. Et donc, j'aime bien cette ambiguïté, j'aime bien que le titre de cette exposition, ce soit comme la réponse des peintres, la réponse en couleur des peintres et des artistes à la color line, à savoir la ligne ségrégationniste qui est encore malheureusement complètement active aux États-Unis. Si je peux ajouter un mot, je voudrais dire un mot à propos d'Elizabeth Catlett, dont Wendell Pierce a parlé. Elle est bien représentée, j'espère, dans l'exposition. Il y a deux sculptures d'Elizabeth Catlett qui sont très très belles, mais il y a surtout aussi un portfolio de 1946-47 de 15 gravures qui sont consacrées à ce qu'elle appelle le Negro Woman, la femme noire. Et c'est une œuvre très importante parce que c'est une œuvre politiquement très consciente. C'est une œuvre à la fois qui évoque les grandes héroïnes de la lutte noire contre la ségrégation, contre l'esclavage, Harriet Tubman, Sojourner Truss, mais aussi les femmes modestes qui ont fait le ménage, qui ont fait... C'est une œuvre vraiment, c'est un ensemble de gravures qui est absolument somptueux et je pense que Elizabeth Catlett a laissé une forte trace dans l'esprit de la communauté noire américaine, et elle a des descendants artistes. Dans l'exposition, il y a par exemple une grande œuvre d'un artiste qui s'appelle Whitfield Lovell, et quand on est allé interviewer Whitfield Lovell, une des premières choses qu'il a dit, c'est « j'ai été élève d'Elizabeth Catlett ».
Wendell Pierce, à l'instant, il y a Elizabeth Catlett dans cette exposition de Color Line, mais aussi les extraordinaires œuvres, et vous le citiez, Daniel Soutif, de Horace Pippin, qui a participé en Europe, sur le vieux continent, à la Première Guerre mondiale, notamment, et qui a donc signé ce tableau sur la Color Line. Or, vous, Wendell Pierce, votre père, que vous racontez dans Le Vent dans les roseaux, donc aux éditions du Sous-Sol, le récit de votre vie, est lui-même un vétéran de guerre. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle, de la trace des deux guerres mondiales dans votre identité d'Africain-Américain?
We paid Nous avons payé a great price
un lourd tribut
as Americans.
En tant qu'Américain.
I had an uncle
J'avais un oncle
who died in the first
qui est mort
World War.
Pendant la Première Guerre mondiale. Un grand-oncle, Uncle Joe,
died here,
qui est mort ici, en France.
My father fought in Saipan.
Mon père a aussi combattu
and a part of the double V campaign,
dans la campagne du double V,
victory abroad,
victoire à l'extérieur et victoire sur notre terrain. C'était ça que les Afro-Américains voulaient. Si nous voulons nous battre pour l'égalité, nous devons défendre ce système à l'étranger. Nous nous battons pour ça à l'étranger, mais nous demanderons ce système-là d'égalité en France, en Amérique aussi pour nous. Et donc ma famille a beaucoup contribué, et beaucoup de gens dans ma famille qui étaient des militaires voyaient vraiment cela comme une implication. Ils pensaient vraiment que le système des valeurs américains était honorable, alors que ce système des valeurs américaines ne leur donnait aucune valeur à eux. C'était un tel système. Ils ne voyaient pas ça dans leur réalité, mais ils y croyaient. Ils pensaient que ça viendrait un jour. Et ça m'a fait comprendre à quel point mon père était un homme de principe. Il disait toujours qu'il honorait toujours l'Amérique à cause de ses apparences. Pas forcément par les idées qui existent là, mais simplement parce que c'est un combat, pour le combat de ces idées, et que ce serait un combat sans fin. Parce que c'était eux qui avaient les meilleures intentions dans leur cœur.
And so America was L'Amérique like a drunken parent.
Était comme un parent ivrogne que vous aimez mais que vous voudriez qu'il arrête de boire.
So you hold them accountable for their faults.
Vous êtes responsable de ses erreurs.
That love and honor that you have for
mais vous avez un sentiment d'amour et d'honneur. Et voilà. Voilà ce que c'était que l'implication militaire de mon père. Il croyait aussi dans le fait qu'on ne peut pas se perdre en Amérique. Tu peux partir. Mais c'était pas seulement une histoire d'orientation dans une voiture littérale. C'était une croyance. Avec cet espoir qu'il avait, avec cet espoir que tu peux avoir en Amérique, tu ne seras jamais perdu dans ce pays. C'était quelque chose d'idéaliste, quelque chose qui... une aspiration.
Jamais
d'abandonner. Ne jamais croire en quelqu'un qui, lui, ne soutiendra pas ses valeurs. C'était vraiment son idée à lui. Nous avons gagné le droit de dire que nous sommes Américains parce que nous y avons cru alors que nous n'y avons pas encore accès. Aussi, ce qui est unique chez les Afro-Américains, Albert Murray nous a appris la possibilité de s'adapter, d'improviser, d'être des individus prêts à s'adapter, à bouger. C'est l'essence du jazz et c'est ça l'expérience afro-américaine. C'est ça qui fait de l'Amérique ce qu'elle est. On dit toujours que l'expérience américaine est basée sur l'expérience afro-américaine, c'est pour ça. Et ça, mon père vivait cela lui-même.
Et justement, Wendell Pierce, quand on pense à The Color Line qui est présenté ici en France avec 600 gravures, peintures, sculptures, affiches, toute la tradition littéraire, tous ces artistes que vous citez ensemble avec Daniel Soutif que vous connaissez si bien et qui sont beaucoup trop méconnus, ça résonne forcément avec des déclarations que vous avez pu faire, Wendell Pierce, sur une urgence à faire culture et à faire patrimoine. Vous parlez même d'un révisionnisme historique à l'œuvre qui efface petit à petit l'apport africain-américain de la culture, de la grande histoire de la culture américaine. Dans cette Amérique d'aujourd'hui, cette urgence à faire patrimoine des Afro-Américains, comment vous la ressentez ?
Yes. One of the main reasons it's important
c'est qu'on ne veut pas que l'histoire soit révisée. On ne veut pas entendre des gens qui disent ça n'a pas existé. Ça permet aussi à une porte merveilleuse de s'ouvrir pour des gens qui ne connaissaient pas, pour comprendre. Par exemple, les impressionnistes ici en France, quand ils travaillaient ici, quand Henry Tanner était esclave, de peindre en Amérique à la même époque, avec des techniques tout à fait parallèles, non, vous ne trouvez pas ? Une liberté du pinceau. Il était à des milliers de kilomètres de là, dans un autre monde, et à la même époque, la lumière lui donner la même émotion. Et son coup de pinceau, sa liberté. Vous savez, c'est de près, on voit simplement le coup de pinceau, mais on voit le tableau, on comprend ce qu'il dessine quand on se recule. Ça, c'était à la même époque. Et c'est incroyable que ce soit devenu des peintres classiques aujourd'hui, alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Et il y avait des esclaves américains qui pouvaient donc dire qu'ils travaillaient la peinture de la même façon que des impressionnistes à Paris. Et donc j'encourage vraiment les Français à aller voir cette exposition, non pas comme des observateurs étrangers, mais pour voir que ces Afro-Américains peignaient leur expérience intime, spécifique. Mais plus on est spécifique, plus on est universel. Cette exposition est une exposition afro-américaine, mais elle est française aussi. Elle parle aux Français parce qu'ils pourront s'identifier à cette humanité.
C'est votre expérience aussi, Daniel Soutif.
Oui, et en plus, j'ajouterais que Henry Osawa Tanner, dont Wendell parlait, il est enterré en France, il est enterré à Meaux, Il a vécu l'essentiel de sa carrière ici en France. Il a fui le racisme. Il était étudiant à Philadelphie. Il était un des meilleurs étudiants d'un grand peintre américain qui est Thomas Eakins. Et par 1893-94, il a commencé de venir ici. Et il a décidé de s'installer ici parce que la vie était plus acceptable pour lui de ce côté de l'Atlantique. Dans l'exposition, vous pourrez vérifier ce que Wendell disait, puisqu'il y a deux tableaux importants de Henri Ossa Wataner, et il y en a un qui représente un jeune breton en train d'apprendre la menuiserie, ce qui est quand même, c'est le fameux Sabot Maker, qui est un tableau qui est conservé au musée de Kansas City. C'est une rareté, c'est exceptionnel de voir ça ici. On peut voir des tableaux d'Henri Ossa Wataner au musée d'Orsay, il y en a trois. Et il y a l'autre tableau, c'est un portrait de Booker T. Washington. Et donc, vous pourrez vous faire une idée de ce que Wendell expliquait il y a quelques minutes.
Ping-pong. C'est déjà fini.
Merci beaucoup, thank you so much. À vous deux, Wendell Pierce. Donc, on peut retrouver vos œuvres en DVD dans les séries dans lesquelles vous avez joué, mais aussi dans le film Thelma, où vous jouez ce père d'un avocat qui défend les droits civils. Et votre récit autobiographique, c'est Le Vent dans les roseaux, et c'est aux éditions du Sous-sol. Quant à vous, Daniel Soutif, vous êtes donc le commissaire de cette exposition à découvrir jusqu'au 15 janvier au Quai Branly, Color Line, les artistes africains-américains avec et la ségrégation.
Le ping-pong est une petite exposition radiophonique qui se scénographie en équipe. Et quelle équipe à la rédaction Aïssatou Endoy, Jeanne Léo, Seam Boutata et Lila Bozès, à la réalisation Thomas Beau, à la prise de son ce soir Élise Lowe, et un grand merci à Harold Manning qui a été Wendell Pierce en simultané pour nous ce soir.
Demain, cyclisme et stylisme avec Paul Smith et Paul Fournel.
Et dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec À Voix Nue sur France Culture, bien sûr.